pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus ou moins calme.
You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour, madame, bonjour, mademoiselle et bonjour, monsieur. Nous sommes le mardi 17 décembre 2024 et nous venons d'entendre le carillon de l'horloge du studio qui nous indique qu'il est 14h et que c'est l'heure de débuter le dernier épisode de l'année. Mais le dernier épisode de quoi, allez-vous me demander? Hein? Eh bien, de Ciné-100, bien entendu. Pour celles et ceux qui vivaient dans des grottes, je rappelle que Ciné-100 est la seule émission du PAF qui ne vous parle pas du Père Noël. Ce Père Noël qui doit passer chez les enfants sages pas plus tard que la semaine prochaine. Alors, avec moi, celle qui mérite bien la visite du Père Noël, c'est elle, la plus espiègle des filles de ce studio, Anne-Lise, qui oublie les audios. Bonjour Anne-Lise.
Bonjour Patrick, bonjour Jean-Jacques, ça va et vous?
Ouais, je vais super bien moi.
Bravo, non, les audios je les ai, hein. c'est pas moi qui les oublie.
C'est parfait. Mais également dans ce studio, celui dont on peut se demander si le Père Noël n'est pas lui, par exemple, avec sa distribution de blagues et de pépites musicales. Jean-Jacques.
Oui, bonjour Patrick.
Bonjour Jean-Jacques.
Mais le Père Noël c'est bien lui, hein. Je comprends pas le sens de votre...
Eh bien, c'est bien toi. C'est bien vous.
Ah oui, je vous en prie.
Oh, non,
pas bonjour Patrick, bonjour Anne-Lise.
Bah, oui. Alors, donc, puisque vous avez la parole, Jean-Jacques, garde-la. Oui. De quoi est-il question aujourd'hui?
Eh bien, notre épisode numéro 12, oui déjà, est 12. Consacré aux road movies. Alors, pour réaliser un road movie, c'est simple. Vous prenez un personnage, homme ou femme, ou un couple, ou encore un groupe, et vous lui faites faire un long voyage à bord d'un véhicule individuel. Il aura déterminé une destination à l'avance, mais pas forcément. En chemin, il fera des rencontres positives ou négatives, hasard et nécessité oblige. La route, c'est une aventure humaine au cours de laquelle on laisse en grande partie les choses venir à soi. Le road movie n'est pas un voyage d'un point A à un point B, d'un point de départ à un point d'arrivée. Non, il s'agit d'une part de fuir, alors que d'autre part, on ne connaît pas le but du voyage. Cette recherche est plus temporelle que géographique, oui. Il s'agit de rechercher au fond de soi-même. Or, se chercher soi-même exclut l'idée du happy end, qui suppose que l'on a tout compris, que l'on a tué les méchants ou construit un couple ou une société. Alors, nombre de cinéastes ont donné forme à des aventures routardes sur un temps propre à eux. Eh bien, dans Ciné-100, nous allons en retrouver quelques-uns qui en ont. Federico Fellini, Henri-Georges Clouzot, John Hillcoat, Stephen Elliott et Wong Kar-wai. Allez, en route, que ce soit en voiture, en camion, en triporteur ou même, pourquoi pas, à pied.
Parfois, il y a des routes que tu dois prendre seul. Pas de famille, pas d'amis, pas de partenaire.
C'est bien vrai, ça. Alors, l'Australie, le 6e plus grand pays du monde, était tout destiné à être un terrain idéal pour un road movie. C'est l'idée qu'a concrétisé le réalisateur australien Stephen Elliott avec son film « Priscilla, folle du désert » sorti en 1994. Elliott nous plonge dans un univers coloré et extravagant tout en redéfinissant le genre road movie.
Tic est fatigué de jouer les drag queens dans les cabarets de Sydney. Il accepte l'offre d'un casino d'Alice Springs au cœur de l'Australie. Il convainc deux amis de venir avec lui, Bernadette Bassinger, une femme transgenre dont le petit ami vient de mourir, et Adam, alias Felicia Jolly Goodfellow, un jeune gay extraverti et irritant. Ils embarquent pour ce périple de plus de 2000 km à bord d'un bus, acheté à des Suédois et rebaptisé Priscilla folle du désert.
Confronté en cours de route à l'attitude rurale beaucoup moins tolérante envers l'homosexualité et la transidentité que la métropole, et réussissant à surmonter les nombreuses pannes, la troupe, ouf, finit par atteindre Alice Springs, prête à jouer le spectacle répété durant le voyage. C'est alors que Tic révèle à ses compagnons qu'il est marié et que le but de ce voyage est de rendre service à sa femme, propriétaire du casino, qui lui a demandé de prendre en charge pour quelque temps leur fils d'une dizaine d'années.
Ce qui commence comme une simple aventure se transforme rapidement en un véritable voyage initiatique rempli de rencontres inattendues et de moments mémorables.
Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous servir une vodka tonique, un Bloody Mary et un daiquiri, je vous prie?
Et puis quoi encore? Qui s'est caché ça avec un parc ouvert? On m'avait pas dit que c'était carnaval. Ici, c'est pas la cage aux folles. Vous vous êtes trompé d'adresse. On peut savoir d'où elles sortent, ces bonnes femmes? D'Uranus.
Est-ce que vous pourriez nous servir une vodka?
Non, on peut rien vous servir. Rien du tout. On n'a rien ici pour des gens comme vous. Que dalle.
Alors ouvre grand tes oreilles, ma jolie. Pourquoi t'allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser la tirelire? Parce que toi, c'est vraiment le seul moyen que t'auras jamais de te faire sauter.
En effet.
Le film allie humour, émotion et bande-son incroyable. Les personnages interprétés par Hugo Weaving, Guy Pearce et Terrence Stamp sont à la fois drôles et touchants. Le film est également un vibrant hommage à la culture LGBTQ+, et à la diversité. À travers des scènes emblématiques, Priscilla célèbre l'expression de soi et la liberté d'être qui l'on est. C'est un message puissant qui résonne encore très fort aujourd'hui.
Et puis visuellement, Priscilla, folle du désert, est un véritable festin pour les yeux. Excusez-moi, j'ai un puma dans la gorge. Les costumes sont extravagants, magnifiques et fous. Les paysages australiens sont à couper le souffle. Et chaque séquence est soigneusement mise en scène pour capturer l'essence de ce voyage unique. Le film nous rappelle que le chemin est tout aussi important que la destination.
Ce film n'est pas seulement un road movie, c'est une célébration de la vie, de l'amour et de l'acceptation. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage vivement à le découvrir. Alors, préparez-vous à rire, à pleurer et à chanter en chœur avec ces personnages inoubliables. Petite anecdote d'ailleurs, le générique de fin indique tourner en dragorama. Ah bon? Eh bien, c'est un jeu de mots entre drag queen, et cinérama.
Alors j'ai vu en lisant le dossier de presse qu'il y avait une autre anecdote liée au film, c'est que dans le cortège de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney, vous savez, en 2000, eh bien, se trouvait une chaussure géante à talons aiguilles, qui était l'un des symboles du film.
D'accord.
Voilà, et oui, ça. Que l'on retrouve sur le bus dans le film.
Oui, tout à fait, voilà.
Extraordinaire.
Oui, c'est fabuleux, oui.
J'ai pas vu le film.
Moi, j'ai pas vu le film non plus, mais j'aime pas les films de... il y a longtemps, quoi.
Oui, vous voulez dire quoi?
Je voulais dire que le film devait aussi son succès à la bande originale.
Ça, on l'a écouté, oui.
Qui remplit le tube des années 70 et 80, qui ont contribué à faire du film un classique, et notamment I Love the Nightlife par Alissa Bridges. Le salaire de la peur est un film franco-italien d'Henri-Georges Clouzot, sorti en 1953. C'est l'adaptation du roman éponyme de Georges Arnaud, qui lui est paru en 1949. Il raconte une épopée dramatique de quatre chauffeurs de camion devant acheminer de la nitroglycérine pour éteindre un incendie qui ravage un puits de pétrole. Ces quatre chauffeurs sont mandatés par Bill O'Brien, le patron de la société Soc, qui exploite le puits de pétrole.
Quatre hommes vont jouer leur vie au volant de ces camions. Ils atteindront les limites du danger, du courage et de la peur. Mario, Monsieur Jo, Luigi, Bimba.
Où on en est ?
À peu près 200 mètres depuis le tournant.
3000 fois comme ça, puis on sera arrivé.
Tu connais ça, toi ?
La tour ondulée.
C'est avec quoi on couvre les baraques ?
Chez nous, oui. Mais ici, c'est de la mauvaise route. C'est le vent qui fait ça. Il rit les chemins comme une vieille pomme. Ça fait vibrer les châssis à tout démolir.
La nitro, elle va péter.
Pas si tu fonces. À 40 miles, tu voles sur les postes ou sans rien. Seulement, il faut garder la vitesse. Au-dessous de 30, tu vibres. Et fini.
Une simple goutte de ce liquide.
Oui, alors, Anne-Lise.
Il y a là quatre individus un peu perdus dans un désert. Désert au sens propre comme au sens figuré. Puisqu'ils n'ont qu'une prime de 2 000 $ pour espérer se sortir de ce trou. La somme promise en cas de décès offre une chance
de succès.
De succès, oui. Oh,
parce que ceux qui meurent, ils touchent pas la prime.
Merci Anne-Lise pour le bêtisier, c'est remarquable.
Oui, mais j'aime bien vous faire des petites choses comme ça, des petites. Oui. Offre une chance donc. La somme promise en cas de succès offre une chance inespérée aux aventuriers de la ville de refaire leur vie loin de cet endroit sans avenir autre que la fin. Ces quatre chauffeurs ont tous des personnalités fortes. En premier lieu, Mario, un séducteur de deuxième zone, hâbleur un peu trop sûr de lui. Mario, c'est Yves Montand, dont c'est le premier grand rôle au cinéma.
Eh oui, mais il y a aussi Joe. Remarquable Charles Vanel, d'ailleurs, il fut couronné du prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes la même année. Joe, Charles Vanel, est un repris de justice qui connaît bien le commanditaire de l'expédition pour avoir fricoté avec lui dans le passé. Bon, les autres personnages sont tout aussi forts, mais il faut dire que l'essentiel de l'action se déroule entre Mario et Joe, n'est-ce pas Patrick ?
Tout à fait. Et alors pour la petite histoire, oui. Je sais bien que vous êtes friand d'anecdotes,
oui.
Pierre
oui.
Lazareff, qui était un grand journaliste,
oui,
remet à Henri-Georges Clouzot le roman Le salaire de la peur.
Oui.
Et Clouzot se rappelle que lors d'une visite au Brésil, il avait constaté que les grands groupes pétroliers volaient sans retenue les ressources naturelles. Ça n'a pas beaucoup changé.
Non.
Ainsi, lui vint l'idée d'adapter le roman au cinéma. La production organise donc un petit voyage dans ces régions, mais le couple Montand-Signoret ne supporte pas la cohabitation d'une population sinistrée avec un milieu du cinéma dans lequel l'argent coule à flot. Et Montand refuse de tourner là-bas.
Voilà.
Alors finalement, le tournage se passera dans le sud de la France, en Camargue et dans le Gard voisin, et notamment une séquence qui est tournée à Prat-France, dans la Bambouseraie. Voilà, et c'est un souvenir d'enfance parce que je l'ai traversé
c'est
à
très,
pied.
Très, très
c'est très, non, mais c'est vrai, c'est un très très bel endroit.
Ah
hein.
Ben, tout
voilà,
à fait.
C'est bien.
D'ailleurs, les séquences fortes sont légion. N'est-ce pas ? Comme le passage sur une ornière qui pourrait faire basculer le camion de Mario et Joe.
Après France.
La peinture de la population et son dénuement est sans doute excessive aujourd'hui, mais elle correspondait aux besoins d'exotisme des films de ces années-là. Les paysages étaient bien
maquillés.
Les paysans étaient bien maquillés comme des paysans. Je ne vais pas y arriver. N'oublions pas que le film est censé se dérouler en Amérique latine.
Oui, vous êtes dans le studio.
Ouf, ouais. Le bar que tient Linda ouais. Vera Clouzot.
La femme d'Henri-Georges.
Tout à fait. Est un havre. Bon, si vous continuez, je ne vais pas m'en sortir.
Non, mais on amène des précisions techniques, si vous voulez.
Ah oui, d'accord. Très intéressant.
Absolument.
Et donc, Vera
Clouzot. Et donc,
Clouzot...
Eh ben, Vera Clouzot est. Non, le bar ah. que tient Vera, Linda Vera Clouzot est un bar, est un havre de paix où les hommes viennent trouver bonne fortune, bon alcool et bonne compagnie.
Écoutez, on dirait moi... Anne-Elisabeth le moine.
Non, mais moi, je serais simple auditeur. Je ne comprends rien à ce film. Et ça donne envie de le voir, d'ailleurs.
Absolument. C'est ça l'intérêt.
D'autant plus qu'il y a une peinture intéressante des rapports entre les quatre chauffeurs,
bah oui.
tous décidés à réussir pour empocher la fameuse prime. Les adversités, les rancœurs, les jalousies se révèlent au grand jour. Il n'en faut pas plus Ben oui, pour que le film soit devenu un vrai classique du cinéma français, monsieur.
Et alors, figurez-vous qu'on va parler un petit peu pognon. Le budget initial était de 102 millions de francs en 1953, quand même.
C'est quand même pas mal.
Hein. Mais bon, voilà, il y a eu diverses avaries, Avatar. Et finalement, le film aura coûté 197 millions de francs, soit presque le double de ce qui était prévu. Et alors, figurez-vous qu'en 90, les Gorillaz, un groupe de punk américain, chanterait sa nitroglycérine.
Alors un peu d'histoire, le road movie apparaît aux États-Unis à la fin des années 60 durant la période de contestation sociale d'une partie de la jeunesse américaine qui s'oppose au Vietnam, prend conscience du problème noir, se rend à Woodstock et lit Jack Kerouac. Il est le fruit de cette idéologie contestataire, celle de la contre-culture.
Mais le road movie exploite également un thème traditionnel de la culture américaine, la route. Un motif prédominant des westerns, elle servait de fil conducteur au scénario, parsemé de dangers, elle menait à un monde meilleur.
Nous retrouvons essentiellement deux grands types de road movies cinématographiques, ceux en voiture et ceux à moto. Dans la première catégorie, Ridley Scott signe une tragédie avec l'escapade de Thelma et Louise qui se transforme en cavale. Pas de cow-boy dans le fanfaron de Dino Rizzi, mais un road movie avant l'heure. Un quadra entraîne un jeune innocent dans une virée entre Rome et la Toscane à bord d'une Lancia.
Alors dans la catégorie deux roues, Easy Rider de Dennis Hopper vient immédiatement à l'esprit, n'est-ce pas, quand on parle de road movie. La traversée des États-Unis par deux hippies sur leurs choppers a donné une envie folle à quantité de spectateurs de partir comme eux à l'aventure. Toujours à moto, Walter Sales, avec ses carnets de voyage, suit un jeune médecin qui traverse l'Amérique du Sud avant de devenir le Che Guevara, bien sûr.
Tout à fait. Enfin, en dehors de ces deux catégories, mention spéciale à deux réalisateurs. John Ford, qui, dans Les raisins de la colère, filme l'errance à bord d'un camion d'une famille de paysans de l'Oklahoma qui prend la route pour s'installer en Californie durant la Grande Dépression. Et David Lynch, qui décroche sans surprise la Palme d'Or du road movie étranger avec une histoire vraie.
Étrange, oui.
Avec une histoire vraie, durant laquelle un vieil homme, afin de visiter son frère malade, trace sa route de l'Iowa au Wisconsin, assis sur une tondeuse à gazon customisée.
Oui. Alors, quittons les USA pour l'Italie, si vous voulez. La strada, Patrick.
Oui, ça me parle.
Lise, en italien, oui. Veut dire la route. Quoi de plus approprié que cette appellation pour en faire le titre d'un road movie, n'est-ce pas? C'est ce qu'a fait Federico Fellini en 1954. Gelsomina, une femme enfant, naïve et généreuse, a été vendue par sa mère à un Hercule de foire, brutal et obtus, Zampano, qui accomplit un numéro de briseur de chaînes sur les places publiques.
À bord d'une moto à trois roues aménagée en roulotte, le couple sillonne les routes d'Italie de village en village, au hasard des foires et des fêtes où elle l'assiste dans ses spectacles. Zampano est un homme bourru qui maltraite Gelsomina et la trompe sans scrupule.
Pourtant, peu à peu, Gelsomina se prend de tendresse pour lui. Surgit alors un autre saltimbanque, un violoniste, poète, philosophe, farceur, Il Matto, le fou. En français. L'étrange affinité qui va le lier à Gelsomina provoque la colère de Zampano, qui, exaspéré, finit par le tuer accidentellement. Prostré, Gelsomina perd la raison.
Et le temps passe. Devenu un compagnon de route inutile pour Zampano, celui-ci abandonne Gelsomina sur la route. Quelques années plus tard, en entendant fredonner l'air qu'elle jouait sur sa trompette, il apprend qu'elle est morte. Alors, pour la première fois de sa vie, il pleure. Extrait.
Tu vas quitter ta vieille maman. Tu vas aller avec Zampano. Il t'apprendra un métier, toi. Tu lui gagneras des sous. Puis ça fera une bouche de moins à nourrir à la maison. Hein, ma petite Gelsomina. Il est gentil, Zampano, tu sais, il t'aimera bien. Tu pourras faire le tour du monde, danser, chanter. Et puis, tu vois ce qu'il m'a donné, Gelsomina. Il m'a donné 10 000 livres. Regarde, voilà, 10 000 livres. Avec ça, je pourrais te réparer le toit. Les pauvres petits auront un peu à manger. Oh, ton père, pourquoi il nous a abandonné, ton père, de Gelsomina? Tu es déjà grande, tu n'as jamais encore travaillé. C'est pas ta faute, ma pauvre petite, si tu n'es pas comme les autres. Tu veux bien l'aider un peu, ta maman? Avec lui, tu apprendras un métier. Pas vrai, Zampano?
Ah oui. Sûrement que je finirai par en faire quelque chose.
Je vais travailler, je vais gagner des sous. Je pars avec un artiste. Et moi aussi, je serai une artiste. Il m'apprendra à danser, à chanter, comme Rosa.
Et tu reviens bientôt?
Ben oui, elle reviendra, bien sûr.
Gelsomina! Gelsomina! Où ça va?
Gelsomina annonce avec la trompette l'entrée de Zampano, un costaud, fruste et farouche. Tous deux vivent sur les routes, une vie misérable et vagabonde, mais c'est justement à travers des personnages comme eux que Fellini parvient à nous faire percevoir ce qui est au-delà des marges du visible, là où se cache peut-être le sens de la vie. La Strada est un film où il ne se passe rien, ou presque. Un film entre poésie et loufoquerie, entre fable et allégorie, où Fellini insiste sur la rédemption de son personnage. Zampano est sauvé de l'inhumanité en pleurant.
Le film est aussi une analyse critique de la condition féminine, de la femme objet tout juste créée pour faire l'amour et la cuisine. Il est porté par le duo Anthony Quinn, Giulietta Masina.
Anthony Quinn est excellent dans son rôle de brute bestiale. Le personnage de Gelsomina, sublime clown triste, est magnifiquement habité par Giulietta Massina, Madame Fellini à la ville. Il convient de rajouter Richard Bassard dans le rôle d'Il Matto.
La Strada est un chef-d'œuvre inoubliable, à la fois magnifique et pathétique, grandiose et pitoyable, drôle et poignant. C'est l'une de ces œuvres que l'on peut voir et revoir et qui garde toute leur puissance d'évocation et leur fraîcheur.
Et alors, comme beaucoup de ces films, Fellini a confié la musique à Nino Rota, bien sûr, qui composa pour l'occasion une mélodie devenue depuis éternelle.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
C'est complètement dingue.
C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux.
Pourquoi, alors, pourquoi ils
alors,
font ça ?
Pourquoi ils font ça, je ne sais pas. Mais figurez-vous que là, c'est l'heure de notre petite chronique ciné-télé-canapé.
Oui !
On va pouvoir voir des films à la télé, dans notre canapé.
La semaine prochaine ?
À partir de ce soir.
Ce soir.
Ce soir, moi, j'ai quelque chose.
Hein. Alors, allez-y.
Alors, moi, 21h, Paris Première, film de Jean Jolteneur en 64. Francis Blanche, Béric Darc, Lilo Ventura, Bernard Blier, ça vous dit rien ? Les Barbouzes, bien sûr.
Ah, oui.
Oh là là, un classique du cinéma de cette époque, grand, grand film, où il y a tout un tas de Barbouzes qui sont réunis dans une pièce pour récupérer
un pactole. Vous rappelez ce qu'étaient les Barbouzes, parce que pour les jeunes personnes comme Anne-Lise, ils ne
savent pas. Les Barbouzes, Anne-Lise, c'est un terme qui qualifie les agents secrets.
Ah,
voilà. Et ça, c'est sur Paris Première.
C'est sur Paris Première à 21h ce soir.
Et vous, Anne-Lise, vous nous emmenez où ?
Moi, je vous emmène dans un remake de Paul Feig de 2016 de SOS Fantôme à 21h sur Citer.
Passionnant.
L'original est un petit peu mieux, mais franchement, ça se laisse regarder avec plaisir.
D'accord. Eh bien, moi, je vous convie à un petit voyage sur Canal+ à 21h avec le film de James, alors je sais pas comment on dit, Aves, je pense, de 2023, Une vie, ça s'appelle. Et on se retrouve à Prague en 1938, au moment où les nazis vont pas tarder à arriver et où Nicolas Winston, qui est un agent de change londonien, va tout faire pour sauver des enfants juifs qui sont enfermés avant que les portes se referment. Quoi. Voilà. C'est avec Anthony Hopkins,
le grand Anthony Hopkins,
Helena Bonham Carter, Jonathan Pryce, Johnny Flynn, Marthe Keller, Suisse de service. Voilà, ça c'est sur Canal.
C'est de qui le film ?
James Alves. Mais je ne suis pas sûr de la prononciation.
Moi non plus.
Mais enfin, bon, c'est pas le plus important.
D'accord. Mercredi. Vous m'avez réveillé. Moi, j'ai quelque chose.
Moi, j'ai rien.
Allez, vous allez sur quelle chaîne?
Moi, alors, je vais sur quelle...
Moi, j'ai rien.
Vous avez rien?
Je vais sur Arte, moi.
Ah.
À 21h.
Allez-y. Ah.
Avec un film de Filippo Meneghetti avec Barbara Sukowa, Léa Drucker et Martine Chevalier. Ça s'appelle Deux. Deux femmes dans une relation homosexuelle cachée et la maladie qui vient bouleverser l'ordre des choses. C'est un film tendre et lucide sur la maladie et sur la relation qui unit ces deux femmes.
D'accord. Rappelez-nous le nom du réalisateur.
Alors, Filippo Meneghetti.
Très bien. Eh bien, moi, je vous invite à aller voir, si vous l'avez, Ciné plus Frisson, à 22h30 pour les gens qui se couchent tard. L'étoffe des héros de Philip Kaufman de 83, l'épopée des premiers astronautes américains, enfin le tout début de la conquête de l'espace. Alors avec un super casting, deux anciens astronautes d'ailleurs, Sam Shepard et Scott Glenn, mais aussi Ed Harris, Dennis Quaid, Barbara Hershey, Veronica Cartwright, voilà, c'est sur Ciné Plus Frisson à 22h30.
Ed Harris et son regard bleu glacial, voilà. Il est génial ce mec.
Nous passons à jeudi.
Jeudi.
Oui, jeudi. Moi, oui. J'en ai un.
Allez-y.
Sur TF1, à 21h.
Ah oui.
De Richard Curtis.
Oui.
Avec Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Keira Knightley, Love Actually.
Love Actually, oui.
Et oui. Si. Petite fresque romantique très sympathique.
On part de la strada juste après.
Oh, mais si. Mais oui, mais chacun a son temps, non, Jean-Jacques.
Chacun son goût.
Chacun son temps aussi. Hein. Il faut vivre avec son temps.
Bien,
voilà. Mais donc, c'est sur TF1, 21h.
Oui, bien sûr. D'accord. Okay.
Petite histoire de personnages qui se croisent avant la période de Noël.
Très bien. D'accord. Moi, je vais vous faire peur avec un film qui est sur Ciné Plus Classique, celui-ci.
Ah.
On cherche d'intitulé à 22h50, toujours pour ceux qui touchent tard.
Qui se touche tard. D'accord.
Un film de Luigi Comencini, Peint amour et fantaisie. Alors, on n'est plus dans le néo-réalisme de l'après-guerre italien. On n'est pas encore dans ce qui va devenir la comédie à l'italienne. On est dans ce qu'on appelait le néo-réalisme rose, c'est-à-dire des films graves avec des fins optimistes. Mm-hmm. Et c'est avec Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida. Il y aura deux suites, avec une avec Sofia Loren, d'ailleurs. Voilà.
D'accord.
C'est pour ceux qui adorent le cinéma
très
italien.
Bien.
Là,
et moi, c'est pour ceux qui aiment le cinéma, sur Chéri 25 à 23h, pour ceux qui se couchent tard.
Oui.
J'ai un film de Tony Scott avec Brad Pitt, Robert Redford et Catherine McCormack qui s'appelle Spy Game. Puisque vous connaissez ce film, peut-être?
Hein, oui,
c'est un vieux vétéran qui a une semaine de la retraite.
Vieux vétéran.
Oui, très très vieux vétéran. C'est un pléonasme que j'adore.
Oui.
Mais c'est comme un très très vieil animateur de radio. C'est ce vétéran qui va être à l'aube de la retraite et qui va devoir aller sauver un de ses contacts pour.
Voilà, très américain.
À qui il a tout appris.
Oui.
Très bien. Alors on saute à vendredi.
Oui.
Hop,
vendredi.
Ça y est, on y arrive. Et là, vous nous dites, Anne-Lise.
Gulli. 21h.
Gulli.
La Reine des Neiges de Vladen Barbe.
Donc vous avez décidé de faire un package.
Taisez-vous, arrêtez. C'est un dessin animé, un film d'animation. Ben pas du tout, détrompez-vous. Qui
non,
est
c'est
russe.
Pas le même.
Eh ben non. Alors si vous aviez un petit peu de culture, je n'ai pas dit que c'était un Disney. J'ai dit que c'était de Vladen Barbe et que c'était un dessin animé russe qui reprend le mythe de la Reine des Neiges et qui est extrêmement bien fait. Les images sont absolument sublimes. L'histoire est vraiment très douce. On suit ces deux petits personnages à travers.
De quelle année ?
C'est une très bonne question. Je crois qu'il date des années 90.
Oui, ça fait référence au temps où les pays de l'Est étaient très très forts au niveau des films d'animation.
Tout à fait. Et du coup, c'est à voir. Ça change complètement.
Bon,
et ça n'a rien à voir avec La Reine des Neiges de Disney.
Heureusement.
D'accord.
Vous, Patrick ?
Moi, j'ai un petit 21h sur Paris Première, film de Steven Soderbergh.
Oui.
Film avec Gina Recano. Voilà, bon.
Le titre, c'est quoi ?
Le titre s'appelle Piégé. Piégé, voilà.
D'accord.
C'est une femme qui fait un agent de sécurité qui travaille pour le gouvernement américain. Voilà, bon, et elle comprend qu'elle a été trahie et que l'un de ses collègues tente de l'éliminer. Bon, c'est un peu classique.
Ouais, donc n'y allez pas. Mais allez plutôt sur Arte à 21h où vous aurez de La Grande Magie de Noémie Lvovsky, adaptation d'une pièce du grand dramaturge italien Eduardo De Filippo. Vous savez, c'est une femme désespérée qui a un mari très jaloux et qui, au cours d'un numéro de magie, décide de disparaître définitivement. Et Le mari veut absolument récupérer sa femme, mais le magicien lui dit qu'elle est enfermée dans une petite boîte qu'il lui donne et qu'il faut surtout pas l'ouvrir parce qu'elle ne disparaîtrait à jamais. C'est un film poétique de Noémie Ilovski, avec Noémie Ilovski, Denis Podalydès, Judith Chemia, Sergi Lopez, François Morel, Michel Esco, Laurent Stocker, Catherine Yégel.
Ah oui, il y a du monde.
Hein. Ah, il y a du monde, oui.
Il y a du lourd. Hein.
Alors après, nous arrivons au week-end et le week-end commence toujours par le samedi.
Eh bien oui, le samedi. Eh bien moi, figurez-vous que j'ai rien.
Moi, je ferme la télé le samedi
et
dimanche.
Moi aussi, je n'ai rien du tout.
On va passer à dimanche.
Bah, dimanche, moi, j'ai quelque chose.
Bon, allez-y.
21h sur Arte.
Ah oui.
Rio Lobo de Howard Hawks de 70 avec John Wayne, Jorge Rivero et Jennifer O'Neill. Alors pendant la guerre de sécession, le capitaine Cordona et ses guerriers se volent d'un chargement d'or à destination de l'Union placé sous la responsabilité du colonel McNally. Mais au cours de l'attaque, l'officier que McNally considérait comme son fils est tué et il jure de le venger.
C'est qui joue là?
John Wayne.
Tout seul?
Non, il joue avec Jorge Rivero et Jennifer O'Neill.
Ah oui, très bien.
Voilà.
Okay.
Et Rio Bravo. Sur CITR, j'ai le 8e jour de Jaco Van Dommel avec Daniel Auteuil. Et Pascal Duquesne,
ah,
Miu Miu, sur un jeune atteint de trisomie 21 qui part retrouver sa mère. Et en chemin, il se retrouve à côtoyer un cadre au bord de la crise de nerfs, complètement burn-out. Et tous les deux vont alors partir un peu à l'aventure. C'est un très beau film sur un peu l'acceptation de soi.
Beaucoup
oui. L'acceptation de soi, de l'autre et d'une autre vision de la vie.
Vous savez que Pascal Duquesne est toujours en vie.
Oui.
Il est toujours vivant et il vit dans un foyer en Belgique, je crois, ou par là.
Oui, tout à
et
fait.
Et les gens le reconnaissent encore dans la rue.
Bah oui, oui,
c'est très bien.
Donc,
c'est un très beau film.
C'était dimanche et puis on arrive à lundi.
Et lundi, lundi est un autre jour.
Lundi sur Arte.
Arte,
oui. 21h.
20h55.
Oui. 20h55.
Capra. James Stewart,
bah oui.
Donna Reed, Lionel
La
Barry
Bond.
La vie est belle.
Ah oui, magnifique.
Magnifique film.
Tout
magnifique
est sublime
film.
Dans ce film.
Ouais, tout.
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 Il n'y a rien,
rien à jeter.
C'est un vieux film.
C'est un très vieux film que j'adore.
De
1946. Ouais,
bon,
tout
alors
à
moi,
je
n'ai pas choisi celui-ci parce que je me doutais que vous alliez le choisir. J'ai pris sur France 3, pour les gens qui se couchent tard à 22h30, Mon chien stupide d'Ivan Attal. Alors, c'est l'histoire d'Henri qui est en pleine dépression et qui fait le bilan de sa vie. Au même moment, un énorme chien très mal élevé et obsédé sexuel vient s'installer dans la maison aux grandes dames de la famille. Quoi. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas un film ébouriffant, mais ça a le mérite peut-être de vous inciter à relire le roman de John Fante, Mon chien stupide aussi, qui est remarquable. Voilà, c'est
d'accord,
tout ce...
Okay.
C'est sur France 3, 22h30.
D'accord. Et voilà. On passe de La vie est belle à Un chien stupide.
Mais oui, mais bien sûr, on peut.
On fait ce qu'on peut. Hein.
Voilà,
allez,
exactement.
Ben oui. Alors, si je vous dis.
Si je vous
dis. Si je vous dis. Nora Jones.
Oui.
Oui, vous avez raison.
Jude Law.
Pareil.
Oui, ça va.
Et Nathalie Portman.
Ah oui, je prends.
Ce sont trois personnages qui jouent dans un film, mais lesquels?
Eh bien, c'est les têtes d'affiche du road movie poétique de Wong Kar-wai, My Blueberry Night, qui est sorti en.
C'est mélancolique, non, ce film?
2007, oui, un petit peu aussi mélancolique. Le film nous plonge dans l'histoire d'Elisabeth, une jeune femme en quête de rédemption et de sens, qui fuit une relation amoureuse dévastée et cherche un nouveau départ à travers son road trip qui commence dans les ruelles de New York. Elisabeth nous invite à découvrir les routes de l'Amérique, mais aussi et surtout les méandres de son propre petit cœur.
C'est beau.
Wong Kar-wai est habitué des histoires d'amour fragmentées et des atmosphères sensuelles. Ouais. Il se réinvente ici dans un cadre plus vaste, celui de l'Amérique profonde. Le film se structure autour de paysages verts et solitaires, comme un miroir de l'isolement intérieur de ses personnages. Ce road movie est une quête de soi, un chemin semé d'embûches où chaque arrêt, chaque rencontre est une étape de guérison.
Alors en 2007, My Blueberry Nights faisait l'ouverture du Donc de Cannes, vous avez traduit le mot précédent.
Vous parlez japonais.
Je parle japonais, oui, c'est ça, très nouveau.
Ouais.
Faisait l'ouverture du Festival de Cannes.
Oui, c'est le même.
L'occasion pour nous d'écouter les commentaires de Wong Kar-wai ainsi que Jude Law et Nora Jones. C'est un document d'archives de l'INA.
Il fait ses premiers pas dans la compétition canoise, elle dans le cinéma, car elle est chanteuse de jazz. Jude Law et Norah Jones, qui pouvaient rêver d'un couple plus glamour pour ouvrir la course à la Palme d'Or.
Le film part du recul que l'on peut prendre. Elle veut mettre le plus de distance possible entre son amour et elle, physiquement et moralement. Ce n'est pas le voyage en soi qui compte ici. Son originalité, c'est de faire avancer l'histoire en prenant chez les gens et dans leur vie de tout petits moments, de tout petits détails.
Il a été presque un père avec moi. Il était à mes côtés, me touchait l'épaule. Il me dirigeait avec une grande douceur. Jamais je ne me suis sentie stupide, ni même comme une débutante.
Et oui, Annelise.
Oui, le choix
tu
de...
Tu me réveilles ou quoi ?
Pardon ?
Oui, non, pardon.
Non, non, mais le choix de la structure narrative et du ton visuel si caractéristique de Wong Kar-wai nous plonge dans un univers onirique où le temps semble suspendu. La caméra capte l'instant avec une précision tactile, magnifiant les petites failles humaines. Le film nous parle de solitude, de perte et de renoncement. Elisabeth, au fur et à mesure de son voyage, croise des âmes blessées. Alors on a Arnie, un homme brisé par un mariage détruit, Souline, une femme marquée par des rêves d'amour non réalisés. Ces rencontres, au lieu de venir compléter son voyage, deviennent des métaphores, des déceptions, des métaphores, des déceptions universelles. On voit dans ces personnages des facettes de soi, des fragments d'histoire qu'il est impossible de recoller, mais qui rendent la route plus humaine et plus poignante.
Un des aspects les plus intéressants du film, c'est la transformation progressive du personnage d'Elisabeth. Au départ, elle fuit l'amour, elle fuit la douleur. Mais au fur et à mesure, les kilomètres la rapprochent de l'acceptation, de la compréhension de ses blessures, de sa propre capacité à aimer à nouveau. Ce n'est pas un road movie de rédemption au sens classique du terme, mais plutôt un récit de réconciliation avec soi-même. Un voyage à la fois géographique et spirituel.
Alors, au rayon anecdote, beaucoup des dialogues et des scènes ont été improvisés sur le vif. Les acteurs n'étaient pas toujours informés à l'avance des développements de leurs personnages, ce qui leur permettait de jouer avec une liberté totale. Norah Jones a même révélé qu'elle n'avait eu aucune idée de la direction que prendrait son personnage au moment où elle signait pour le film. Elle devait se laisser emporter par l'instant, tout comme son personnage.
La musique de Ray Cooder, presque omniprésente, accompagne ce périple comme un souffle mélancolique, un blues qui colle à la peau, intensifiant l'aspect introspectif de chaque scène. On retrouve aussi Otis Redding avec son fameux « Try a little tenderness ».
Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, 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 never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental. No, no, no. She has her grief and care. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Eh bien, sur 91.3 ou de radio, bien entendu.
Le film qui vient prend place dans un décor apocalyptique. Celui d'une forêt aux arbres calcinés, au sol recouvert de cendres et surtout sans aucune faune. Les premiers personnages qui apparaissent dans ce décor désolé sont un homme et son jeune fils poussant un chariot de supermarché avec à l'intérieur ce qui semble être leurs effets personnels. Sur cette terre dévastée, il n'y a plus rien à manger, plus d'animaux, plus d'oiseaux.
La Route est un film anglais réalisé par John Hillcoat, sorti en 2009. Il a pour interprètes principaux Viggo Mortensen, qui joue le père, et Cody Smith-McPhee dans le rôle du fils, mais aussi Charlize Theron et Robert Duvall.
Mais alors, avant d'être un film, La Route, c'est un roman de Cormac McCarthy. Un formidable roman qui va bien au-delà de la sombre période post-apocalyptique. Il s'agit davantage de la relation fusionnelle entre un père et son fils aimé. Le roman est dépouillé dans sa narration, mais le film le sera dans sa mise en scène. Un film d'une tristesse infinie avec peu de dialogue et dont les thèmes principaux sont l'instinct de survie, la relation père-fils et enfin un peu de la violence et de l'horreur très présentes dans le livre de Cormac McCarthy.
Alors l'adaptation qu'en ont fait Hillcoat et son scénariste John Pennell est fidèle au roman. Mmh. Bon, petit bémol, elle montre l'indicible, quoi. Elle montre ce que le roman suggère et c'est un peu la faiblesse de l'exercice. Bon, le roman laisse la part à l'imagination. Le film nous montre des images crues de barbares, de cannibales prêts à tout pour se nourrir de chair humaine. Bande annonce.
Tu crois qu'il y a encore combien de personnes en vie ?
Dans le monde ? Pas beaucoup.
On ne survivra pas à un autre hiver ici.
Il faut descendre vers le sud, rejoindre la côte.
Cet enfant a l'air affamé.
Tu le regardes encore et je t'explose la cervelle.
Ils vont nous attraper.
Je te l'ai dit, je ferai tout ce qu'il faudra pour ça.
Comme quoi?
Je tuerai tous ceux qui vous approcheront. C'est mon devoir.
Cours, cours!
On va mourir?
On n'abandonnera pas. On va survivre à ça.
Le film raconte en un peu moins de deux heures l'histoire d'une errance dans un monde perdu des hommes. Le décor de bois calciné nous met d'emblée mal à l'aise. Nous pouvons nous représenter ce qu'il pourrait advenir de notre monde si un fou décidait d'appuyer sur le bouton.
Et il y en a.
On peut penser par moments à un film de plus sur les zombies ou sur une sorte de Mad Max avec ses hordes de sauvages assoiffés de sang et de chair humaine.
Mais l'interprétation de Viggo Mortensen est remarquable. Il est réellement habité par son personnage, fiévreux, inquiet, violent, mais également d'une douceur extrême avec son fils. La Route est un film sur la fin d'un monde, la fin de l'humanité, et malgré tout, la nécessité de garder un cap, une route, seule façon de maintenir en vie une parcelle de bonté. Alors, c'est pas un film de plus sur le sujet, mais c'est un film différent. Ici, pas de grands effets spéciaux qui sont censés nous en mettre plein la vue, mais au contraire, un dépouillement à l'extrême des personnages, des dialogues et des plans. Souvent tourné en plan séquence, La Route nous donne à voir un monde fantasmé et redouté. Un film bien fait, mais rien ne vaudra jamais le roman, un des rares romans qui m'a ému aux larmes à sa lecture.
Alors il faut souligner l'excellente bande originale de Nick Cave et Warren Ellis, une partition très évocatrice des menaces qui pèsent sur le père et son fils, mais qui ne sombrent jamais dans les clichés post-apocalyptiques.
Thank you.
tiens, tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges? C'est génial ce genre de spectacle, hein?
Ça, c'est vrai, ça.
Allez, vous l'avez reconnu, le petit jingle sur les sorties au cinéma de demain.
Oui, d'accord.
Alors, qu'est-ce que vous avez?
J'en ai qu'un.
Alors,
j'en
allez-y.
J'en ai deux, dont un.
Alors, bah, on va en prendre, donner un chacun.
Un chacun, allez,
un chacun,
allez.
Vite fait.
Allez-y, Jean-Jacques.
Eh bien, moi, ce sera après le biopic de Charles Aznavour. C'est un nouveau biopic qui arrive. C'est celui de Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, la divine, de Guillaume Niclou, avec Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte et Amira Kazar. Voilà, le biopic d'une femme libre, moderne, voilà, qui a défié les conventions, surtout au niveau de l'amour. Et qui a été la première artiste mondialement connue.
Connu, oui.
Alors c'est pour voir Sandrine Kiberlain qui est excellente, oui, en général.
Et puis moi, Laurent Lafitte, parce que oui, j'aime bien Laurent Lafitte aussi. Beaucoup, ouais.
Voilà. Oui.
Moi, Patrick, j'ai un film alors, de Nabil Ayouch qui s'appelle Everybody Loves Tunda, avec Nisrine Erradi, Jude Chamili et Jalila Tlemcen. Alors Tunda rêve de devenir une cheika, c'est-à-dire une artiste traditionnelle marocaine qui chante sans pudeur ni censure des textes de résistance, d'amour et d'émancipation transmis depuis des générations. Mais voilà, elle se produit tous les soirs dans un bar de sa petite ville de province sous le regard des hommes. Mais voilà, elle est maltraitée et humiliée et elle décide de tout quitter pour les Lumières de Casablanca. C'est un film
très
sur
bien.
L'émancipation des femmes.
Le Maroc, c'est pas gagné.
Mais non. Et moi, ce sera, eh bien, on parlait de Wong Kar-wai, le dernier Wong Kar-wai qui sort mercredi, qui s'appelle 2046. Alors, c'est un film, je pense, à la Wong Kar-wai, où une histoire d'amour complexe, où les hommes et les femmes se croisent, se conquièrent et s'aiment. Ça a l'air d'être un très beau film. Et puis après, j'enchaîne rapidement. Qui s'appelle Her Story de Yumi Cho.
Top.
C'est un autre film qui sort demain sur une mère célibataire qui se lie d'amitié avec une jeune femme dans le quartier où elle
voilà.
Vient de
s'installer. Eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission, notre épisode du jour. Si l'essence est bel et bien fini, nous ne reverrons plus en 2024.
Oui.
Ah bon, pourquoi?
Ben vous n'entendrez plus nos douces voix, nos bafouillages, nos écorchages de noms propres. Non,
si
tout
peu,
cela c'est
si
terminé.
Peu.
Si décembre va prendre quelques jours de vacances, histoire de recharger les batteries, d'aérer nos neurones qui en ont bien besoin, et de goûter aux mets délicieux que nous allons concocter pour nos proches et nos amis. Nous nous retrouverons le 7 janvier 2025 à 14h en pleine épiphanie avec la galette des rois.
Et ce sera sur Eau de Radio 91.3, bien entendu.
Et alors, si d'ici là nos voix vous manquent, plongez-vous dans le podcast d'Eau de Radio et allez délicher l'épisode qui vous plaît de cette saison 6 ou de celles qui l'ont précédée. Allez, on se quitte avec la chanson Perle du jour grâce à Jean-Jacques.
Oui, alors, on vient de le voir, il y a ceux qui bougent, n'est-ce pas, qui cherchent, qui recherchent, qui fuient. Mais il y a aussi ceux qui restent immobiles et qui observent ceux qui bougent. C'est le cas du personnage de la chanson d'Alain Souchon, Un terrain en pente, un véritable moment de sociologie avec ses tableaux successifs de la France des années 60, mais qui pourrait très bien être du temps actuel.
Mmh. Bah allez, joyeux Noël,
oui,
bonne année et bon vent à tous.
Bon vent à tous.
Un terrain en pente. Au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse. À côté de la piscine et des dames qui pensent dans leur cuisine. Elles pensent aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin, les Anglices et Rouen derrière. Et le fleuve qui glisse. mer. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Au bord du canal, il y a des campeurs, des gens qui leur parlent et qu'ont peur. Un monsieur de dos à la découverte de l'Eldorado dans une poubelle verte. Fanion Bannière. Plaisir et souffrance, entre les barrières, passe le Tour de France. La gloire a des chemins, durs et abrupts. Pour monter le machin, faut prendre des trucs. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On voit tout de là-haut. Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume.